Bonsoir et bienvenue dans votre quinzomadaire radiophonique, la relève diffusée sur Radio Campus Paris. Ce soir, comme toutes les quinzaines, il est consacré aux nouveaux talents. On parlera d'Angleterre et de massage, mes invités sont musiciens. Mais avant de commencer, pensez-vous comme le cinéaste Jean Renoir que ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Cette phrase pourrait être l'incipit du roman dont je vais vous parler maintenant, même si son auteur a préféré citer un autre français, Jean Giono, qui dit « Tout ce que vous entassez hors de votre cœur sera perdu ». Je ne vous parle pas d'une tombe pour deux, c'est le titre donc du roman de Ron Rash, parce que ce grand écrivain américain a eu la bonne idée de citer Giono. Non, non, pas du tout. Rash raconte une histoire qui évoque aussi un autre français du sud, plutôt Pagnol, avec ses histoires de paysans enrichis qui provoquent des drames pour éviter des mésalliances. Nous sommes là en Caroline du Nord et les Hamptons sont à la fois des paysans, les propriétaires du magasin de la ville et de la scierie locale. Des notables que tout le monde tutoie et craint, alors que leur fils unique tombe amoureux d'une jeune femme de chambre pauvre, les parents se fâchent. Nous sommes en Amérique au début des années 50 et Jacob le fils est parti faire la guerre en Corée. Cela donne un chapitre d'ouverture incroyable où le jeune soldat sentinelle de nuit dans une Corée inconnue pense à cette jeune femme qu'il a épousée alors que l'ennemi approche. Mais je ne vous raconterai rien de plus si ce n'est que ce grand roman est tout en nuances et subtilités que l'auteur âgé de plus de 70 ans, il parle de la jeunesse mieux que bien des primo-romanciers vintenaires et que ce drame rural américain excelle autant à décrire la psychologie de ses personnages que le paysage et notamment la faune. C'est aussi un peu comme dans Anora, le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année, un récit où derrière l'action principale, il se passe une autre histoire, celle de l'émancipation, là, de Blackburn, un jeune garçon défiguré par la polio, plus ou moins abandonné par sa famille et devenu gardien de cister, et qui, je m'arrête là, ça s'appelle Une pompe pour deux, c'est signé Ron Rash, c'est aux éditions Gallimard, Collection Lanoir, et c'est traduit par Isabelle Reinhardt, pardon. Bonjour et merci Arnaud Roulin et Samuel Engelbert d'être avec nous ce soir. Pardon pour les bafouillages, mais on a des petits problèmes techniques ce soir qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour mon stress. Arnaud Roulin, vous êtes pianiste et on peut écouter...
Bonjour
à Arnaud. On peut écouter vos massages pour piano chez Lyon. Alors, je ne vais pas arriver à le dire. Lying, si vous voulez bien le dire. Lying Lions. Lying. En tout cas, on pourra aller vous écouter et vous applaudir. Le vendredi 13 décembre à la FAB Paris, place Jean-Michel Basquiat dans le 13e arrondissement. Je me suis dit que le 13 décembre dans le 13e arrondissement, ça portait bonheur, forcément.
J'espère.
Et vous, Samuel Engelbart, vous êtes musicien, plus spécialement altiste, violoniste et même spaliste. Vous nous révélerez ce que c'est un peu plus tard. Il faut donner envie aux gens de rester. Donc vous êtes spaliste avec deux L. Vous êtes aussi cofondateur de l'ensemble musical Acte 6 et vous avez coordonné un double album. Quand je dis double album, j'ai l'impression d'avoir 600 ans, je ne sais pas si quelqu'un dit encore cette expression, qui s'appelle donc Un lieu à soi et c'est chez Octave Records.
Absolument.
Est-ce que vous connaissiez tous les deux ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Est-ce que vous connaissiez votre travail l'un et l'autre ?
Non.
Pas du tout.
Même pas de nom.
Non, c'est juste, je m'en doutais un petit peu, mais c'était juste pour savoir s'il y avait aujourd'hui du dialogue au sein du monde de la musique entre des univers, ou est-ce que c'était encore très scindé entre l'univers de la musique classique et peut-être du jazz et d'autres types de musique, ou est-ce que, même si vous ne connaissez pas, vous connaissez des musiciens qui appartiennent à d'autres mondes ?
Il y a des projets transversaux, pas mal, hein. Moi, il y a quelques années, j'avais été invité par un ami claveciniste, Bertrand Cuillet, un ami d'enfance, peut-être que tu connais.
Très bien, oui.
Et c'était drôle, il fallait qu'on fasse une relecture de la sarabande d'Endel avec des synthétiseurs en plus de son ensemble de musique baroque. Donc ça arrive.
Oui, c'est vrai que Bertrand Cuillet est assez... assez initiateur de projets comme ça, parce que moi j'ai fait assez récemment en fait avec lui un projet aussi où on était sur des instruments baroques mais sonorisés, il y avait de la danse avec Leïla K.
Voilà, donc effectivement avec Leïla K,
c'était aussi avec Leïla. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il y a
super
pas mal de
danseuses, chorégraphes.
Peut-être que aussi les musiques anciennes et les clavecinistes etc sont un peu plus ont assez en fait d'explorer. Voilà, c'est un peu chez les baroqueux un vrai leitmotiv comme chez les jazzman, etc.
C'est
intéressant. Ouais.
Et ça apporte quelque chose à l'un comme l'autre à votre pratique, le fait de pouvoir dialoguer avec d'autres univers.
Oui, forcément. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt me focaliser sur mes envies musicales profondes, mais j'accepte quand même régulièrement des collaborations. Par curiosité ou par amitié. Et comme ce disque que je viens de sortir autour d'Eric Satie, La musique est assez... c'est un jazz assez dissonant, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et pourtant, je suis très content d'en être.
Et qu'est-ce qui fait que vous allez accepter une collaboration plutôt qu'une autre ?
Eh bien, là, c'était et l'amitié et la curiosité, car le chef d'orchestre, c'est aussi un très vieil ami à moi de Nantes, avec lequel j'ai commencé le jazz quand j'étais adolescent. Donc voilà, c'était les deux réunis.
Le jazz, c'était au conservatoire ou c'était en dehors ?
Alors j'ai commencé un peu de mon côté à la maison en jouant sur mes disques quand j'étais adolescent, puis j'ai continué à Paris dans la classe du CNSM,
Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, et voilà, il y a 25 ans, et j'ai rencontré pas mal de musiciens avec lesquels je joue toujours aujourd'hui.
Alors là, je l'ai dit, hein, vous allez jouer le 13 décembre à la...
Fabrique Agnès B.
Fabrique Agnès B, donc, hein, qui est dans le 13e, à côté du cinéma, du grand cinéma et de la Bibliothèque nationale, et de la Bibliothèque François Mitterrand. Vous allez jouer les Massages pour piano, qui est du piano solo. Alors comment est née l'envie d'écrire cet album et de le jouer ?
En fait, j'avais une série de morceaux que j'avais envie d'enregistrer. Alors au départ, je pensais que ce serait en quartet. Et puis, j'ai enregistré des démos, hein, comme on dit, dans mon salon, sur mon piano, que j'ai envoyé à quelques amis susceptibles de produire ça. Et puis, il y en a un, mon ami Babix, un chanteur, un producteur, m'a dit « Mais en fait, moi, j'aime bien tes maquettes au piano seul. » Tu devrais sortir un disque de piano, voilà. Donc
vous n'étiez pas forcément quelque chose.
Bah non, parce que je suis pas vraiment pianiste. C'est un instrument difficile. Le solo, c'est une discipline difficile. Donc non, ça me paraissait un peu irréalisable. Et puis finalement, voilà, au fil des mois, j'ai travaillé là-dessus. Et puis c'est sorti sur le label de mon ami Thomas de Porquerie. Pareil, rencontré au CNSM il y a 25 ans et qui aujourd'hui est mon producteur.
Donc comme quoi au CNSM on apprend la musique, mais on rencontre aussi des gens qui sont utiles toute une vie.
Ah oui, oui.
Ouais. Enfin, qui sont utiles, qui sont chers, puisque ce sont des amis. Dans vos biographies, on lit qu'entre vous et le piano, ça n'a pas toujours été un coup de foot. C'est ce que vous nous dites, vous n'êtes pas pianiste. Au conservatoire, votre professeur vous a conseillé de jouer de l'orgue liturgique. Pour vous épargner, j'adore ça, le toucher legato. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce toucher legato et qu'est-ce qui vous manquait en fait ?
Oui, alors le legato, c'est un terme de phrasé musical. C'est la transmission d'une note à une autre. Et par exemple, sur un instrument avant, c'est assez évident, on peut soit détacher les notes, pam pam, soit les lier, ta-ra. Sur un piano, ça paraît plus étrange parce que c'est un instrument, une mécanique à percussion, avec des marteaux qui viennent frapper les cordes. Et pourtant, il y a cette possibilité de lier les notes. Mais moi, quand j'étais jeune, j'y comprenais rien. Voilà.
C'est vrai aussi dans les instruments à cordes, parce que vous êtes plutôt un cordiste, si je ne m'abuse.
Oui, un cordiste.
On dit ça, non ?
Non, pas du tout.
Je viens d'inventer un terme, peut-être, ouais, c'est ça. Non, j'en sais rien. Je me suis un peu mélangé.
Un instrumentiste à cordes.
Il y a aussi, dans un instrument à cordes, il y a les deux possibilités de jouer les notes,
de les lier, de les détacher, oui, tout à fait. Ouais.
Et ouais, c'est pareil, il y a deux écoles ?
Alors, non.
Non,
mais je comprends la comparaison peut-être avec l'orgue, mais nous, c'est vrai qu'on fait ça plutôt avec un archet, donc l'archet permet peut-être plus d'expression qu'un clavier. C'est beaucoup plus évident de savoir comment faire l'un ou l'autre, je pense. J'en sais rien, en fait.
C'est évident pour pas mal de pianistes, mais ça n'a pas été mon cas.
Et l'orgue, c'était donc pas trop une déception d'arrêter le piano pour faire de l'orgue liturgique ?
Non, alors en fait, c'est l'orgue d'église. Oui, c'est l'orgue d'église, ça m'a plutôt excité, parce qu'à l'époque, je pense que j'écoutais déjà pas mal de jazz, et passer à l'orgue liturgique, pour moi, c'était un pont vers, par exemple, l'orgue Hammond.
Oui,
Hammond,
que
j'adorais à l'époque, et d'ailleurs je suis devenu organiste Hammond. Donc l'orgue liturgique, comme c'est un instrument, alors c'est un instrument à clavier, mais à vent également, puisqu'il y a une soufflerie qui alimente les tuyaux comme une flûte ou un hautbois. Du coup, on chante sur un orgue comme on chante avec une flûte, et comme un instrument à vent. Et c'était plus simple. En effet, pour moi, j'ai mieux compris l'orgue à cette époque-là.
Mais c'est marrant parce que d'abord, c'est une histoire. Il y a une histoire de compréhension. On a toujours l'idée que la musique est un peu instinctive, un peu.
Ah non, il y a beaucoup d'éléments techniques à savoir. Et
donc à comprendre.
À comprendre. Et puis le tout, c'est d'arriver à chanter avec l'instrument. On joue. Et voilà, on ne comprend pas tous les instruments, heureusement, donc on se spécialise.
Mais est-ce que vous n'aviez pas une frustration à ce moment-là de vous retrouver avec un instrument qui ne vous ouvrait pas les mêmes répertoires ? J'imagine que le répertoire de l'orgue et le répertoire du piano, même s'ils sont peut-être proches, ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté triste de se dire, bah, je ne vais pas pouvoir jouer ça, je vais faire de la musique d'église ? Je caricature.
Non, ça, je ne me suis pas posé cette question.
Je comprends encore moins. Moi.
À cette époque-là, en fait, je commençais à m'intéresser à l'harmonie, à l'écriture. Et les premiers compositeurs qu'on étudie en classe d'écriture, c'est généralement on commence par Mozart. Et puis très vite, on passe à Bach. Et justement, Bach, c'est un compositeur qu'on joue énormément à l'orgue. Donc finalement, j'étais très content.
Je reviens un peu en arrière, hein. Votre album s'appelle Massage pour piano. Alors le massage, ça ressort du legato, de l'autre façon de jouer, parce que quand on pense à un massage, on se dit que ça doit être plus continu, plus coulé.
Non, alors massage, c'est plus en fait j'avais envie, enfin le point commun de cette sélection de morceaux, c'était je dirais la tendresse et la lenteur. J'avais envie que les choses soient lentes et douces. Et peut-être parce que j'ai joué énormément de musique violente, saturée, beaucoup de rock. Là, j'avais envie de faire exactement l'inverse. Donc le massage, c'est juste un terme symbolique, un espèce de lieu vaporeux et doux. Voilà.
Une envie qu'on l'écoute en se détendant et vous-même de pouvoir vous détendre en le jouant.
Exactement.
On doit se mettre dans l'état d'esprit du morceau qu'on joue, quand on joue d'un morceau, vous pouvez répondre aussi d'ailleurs, hein, Samuel, puisque vous avez une autre expérience, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi prenant ? Vous dites que jouer des choses très violentes, c'est fatigant aussi de jouer des choses violentes ?
C'est pas fatigant, c'est même assez galvanisant.
Ça donne de l'énergie.
Mais c'est en effet un état d'esprit opposé, j'avais envie d'expérimenter le contraire.
Samuel, vous avez un rapport entre votre humeur et ce que vous jouez ?
Parfois au concert, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire quand on est, quand on est un peu mou et qu'il faut jouer très vite, et malheureusement, on se met quand même dans les conditions. Effectivement, parfois, les choses qui vont très rapidement, on associe ça souvent à la difficulté technique, etc., des pièces de virtuosité, pour la musique classique en tout cas, où il faut être très alerte, mais aussi ça peut, quand on parle d'état d'esprit, ça peut être aussi des choses qui sont liées soit à la violence ou à l'excitation, et donc peut-être qu'il faut se mettre dans un état d'esprit comme ça. Je sais pas, en fait, en tout cas, dans un concert, on est toujours confronté à différentes ambiances, donc on est obligé de passer de l'un à l'autre assez rapidement, et je pense que ça fait partie du métier de musicien quand même de naviguer,
et je trouve que c'est chouette.
Ouais, je trouve que c'est chouette, ça permet aussi effectivement de brosser quand même tous les affects qui passent par dans nos cerveaux. On le sait tous, même dans une minute, une heure, une journée, enfin voilà. Ouais.
Quand on lit votre portrait, Arnaud Roulin, ce qui frappe, c'est la diversité de vos influences. Vous donnez l'impression d'être un musicien très libre, vous citez aussi bien Wagner que la musique brésilienne, avec Antonio Carlos Jobim, des pianistes de jazz dont Nina Simone, mais aussi Anne Kefelec. Vous aimez tout type de musique ?
Oui, j'écoute pas mal de styles assez différents.
Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce qui fait que vous allez... Enfin, là, je vais vous demander d'intellectualiser peut-être quelque chose qui ne connaît pas, mais qu'est-ce qui fait que vous allez aimer une influence, quelque chose ?
Je cherche des musiques qui me transportent, qui me font voyager. Donc ça peut être n'importe quel style, en effet. J'aime sentir l'abandon d'un musicien ou d'un compositeur, la religiosité d'une musique. Et ça peut en effet avoir lieu autant dans la soul que dans le jazz, que dans le classique. Donc oui, je suis assez ouvert.
Alors, vous avez aussi une autre particularité que je n'ai pas encore dit. Vous êtes accompagnateur de chanteuses. Vous avez travaillé avec Jeanne Hadid ou Catherine Ringer, peut-être aussi de chanteur. Vous aviez travaillé avec Thomas de Pourquery. Est-ce que il y a une espèce de frustration d'être accompagnateur à un moment où on a envie de jouer seul, hein, aussi pour avoir un ça fera un écho avec le disque que de Samuel dont on parlera après, mais d'avoir un peu un espace à vous pour exprimer votre sensibilité et de pas être un élément de même de quelque chose que vous aimez.
Oui, en effet. Alors, j'accompagne peu, finalement. C'est marqué dans la bio, mais c'est...
C'est pour nous tromper.
Mais je le fais peu. Je le fais parfois, encore une fois, toujours par curiosité ou par amitié. Jeanne Hadid est une ancienne copine. Donc, en tout cas, ce premier disque, puisque c'était mon premier, Massage for Piano, en effet, j'avais besoin d'exprimer quelque chose et de ne plus être une partie d'un groupe. En fait, j'ai surtout fait partie de groupes, comme Ponyhawk, c'est un groupe de rock, Supersonic avec Thomas de Pourquery. Et dans ces groupes, on met une partie de soi au service d'un tout. Et chacun fait ça dans le groupe et ça donne un groupe particulier. Là, j'avais besoin d'exprimer un truc vraiment 100% qui venait de moi, quelque chose de très personnel, quoi.
Thank you.
Voilà, c'était Massage numéro 1. Arnaud Roulin, ça fait partie de votre album Massage pour piano. Je rappelle que vous êtes le 13 décembre à la FAB.
Ah oui.
Eh ben non, c'était une virgule, mais c'est pas grave. C'est toujours La Relève avec Arnaud Roulin et Samuel Engebert. Arnaud Roulin, une dernière chose, on a parlé donc de cet album, un album aujourd'hui, même si je pense beaucoup de gens l'écoutent de manière dématérialisée, c'est aussi un objet. Vous avez travaillé la pochette qui est très belle, hein, vous avez choisi, j'imagine, avec soin, cette illustration en noir et blanc.
C'est une illustratrice que connaissait Thomas de Porquerie.
Qui encore a fait lui, ça.
Oui, mais c'est sur son label que je sors mes disques. Donc c'est lui qui a choisi cette graphiste, qui s'appelle Gala, qui est formidable et qui avait déjà fait ses pochettes, les pochettes de son groupe Supersonic, dont je faisais partie. Et c'est donc elle qui s'occupe du graphisme du label, Lying Lions.
Alors vous, Samuel, j'ai vu que vous aussi, vous travaillez, Samuel Engebert, j'ai vu que vous travaillez aussi beaucoup le design, on va dire le design visuel de vos albums, et que notamment vous travaillez avec un photographe d'Europe, qui alors que vous faites de la musique classique, pourquoi vous avez eu cette idée?
Bah en fait,
comment elle est venue plutôt, la question?
On a créé ce label, déjà en fait on est directeur de maison de disques, hein. Comme je disais, Octave Records, c'est à la fois une maison qui produit nos programmes, mais qui aussi produit d'autres artistes classiques, du baroque au contemporain. On n'avait pas envie de se... Voilà. Et effectivement, en fait, c'est un peu par hasard que ce photographe qui s'appelle Tito Massé est venu un peu sur cette initiative qu'on avait eue. Il m'a pris en photo dans un festival en Bretagne il y a quelques années. Et effectivement, l'associé avec qui j'ai créé ça, Ronan Khalil, qui est claveciniste, a flashé sur cette photo en me disant « Mais écoute, cette photo, elle est formidable. Qui a pris ça? Il faut absolument l'appeler. » Et j'ai retrouvé. Alors, c'est ça, la technologie aujourd'hui, c'est assez sympathique. On peut retrouver les gens facilement. Donc, via Facebook, j'écris. Et effectivement, on s'est aperçu qu'en fait, Titouan n'est pas du tout du milieu classique, mais du milieu du rock, plutôt. Il photographie... voilà, tout un tas de scènes, voilà, et il va dans des festivals, les plus grands festivals de rock. Et en fait, on aime un peu brouiller aussi les pistes, se dire que c'est peut-être intéressant d'avoir d'autres univers qui viennent cogner celui du classique un peu. Voilà.
Vous pensez que du coup, il donne une autre image à votre travail?
Je crois qu'en fait, c'est assez drôle parce qu'en plus, au fur et à mesure des albums et de la collaboration qu'on a maintenant depuis 3 ans, je crois qu'elle est... elle est de plus en plus libre. Il se sent beaucoup plus libre maintenant d'exprimer aussi son côté rocker par rapport au classique où il s'est peut-être senti à un moment donné obligé de suivre les codes, et nous ce qu'on voulait c'était surtout pas qu'il les suive, quoi.
Il me semble aller loin parce que la pochette de votre album sur Hambourg, c'est des vieilles affiches déchirées sur un mur.
En fait, on n'avait pas du tout envie de ça. Je pense qu'on avait aussi des codes un peu ringards, désolé le milieu du classique, mais un peu ringards sur les bords.
Vous n'aviez pas envie d'être avec un queue de pie et un nœud de papillon?
Bah, pourquoi pas, mais alors faut que la photo soit intéressante, quoi. Et là, on sent qu'il y a une espèce de paresse, un peu des labels, même indépendants parfois, à se creuser la tête sur une vraie identité. Donc on se les construit comme ça, et je crois que... Bah, c'est ce qui nous guide aussi sur les albums qui vont suivre, quoi.
Et alors là, vous avez un lien particulier avec le Royaume-Uni, vous me voyez venir, mais... Alors... Parce qu'on parle de rock, on parle de pop...
Pas forcément, enfin, naturellement comme ça, je pense que c'est peut-être le vague à l'âme un peu de l'Angleterre qui me plaît. Moi, je viens surtout, c'est assez drôle parce que je suis musicien, mais je viens plutôt alimenter, enfin, je trouve mes sujets de programme autour de la littérature. Et quand j'ai commencé à vouloir faire un programme sur l'Angleterre, c'était via Virginia Woolf. Et aussi sur des écrits qui signifient quelque chose, qui ont un sens aujourd'hui sur sociétalement. Là, c'est autour des compositrices, ce disque, Un lieu à soi. C'est un livre qu'elle a écrit en 1929, qui n'est pas vraiment...
C'est un livre de Virginia Woolf.
Ouais, c'est un livre de Virginia Woolf.
Un manifeste, presque.
C'est plutôt un manifeste à ce moment-là, au moment des suffragettes. Je pense que c'était un discours qu'elle devait prononcer à Oxford. qui a été transformé en bouquin, et je l'ai trouvé, c'est un texte fort et fondateur du féminisme même contemporain.
C'est donc, vous êtes d'abord un lecteur de Woolf ?
D'abord,
oui. C'est par elle que vous avez l'idée d'aller chercher ces musiciens, et ces musiciennes, parce qu'il y a aussi des musiciens, qui vont... C'est quoi l'idée ? C'est d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas, des musiciennes qu'on ne connaît pas, c'est faire émerger toutes ces femmes qui ont écrit de la musique et qu'on a oubliées ?
Ouais, je crois que en fait c'est un double travail à la fois avec Acte 6 qui est le collectif musical, mais aussi avec le label, c'est d'aller chercher des partitions oubliées qui n'ont jamais été enregistrées et de pouvoir les donner à entendre au plus grand nombre. Et effectivement, en fait, Virginia Woolf, ses écrits sont empreints d'évocations de la musique un peu partout, à droite à gauche, et c'est par là qu'on va les chercher, et de se dire qu'aussi, moi je suis altiste. Et l'alto, bah, ça fait partie des instruments de prédilection de la littérature musicale anglaise. Et donc, dans mon répertoire, moi, quand je travaillais aussi au CNSM, bah, on travaille des œuvres de compositeurs et compositrices anglaises, notamment Rebecca Clarke, qui est celle, on va dire, la plus connue quoi, de notre répertoire. Et donc, du coup, très naturellement, en fait, j'y viens...
Vous êtes aussi spaliste, je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même qu'on explique ce que c'est un spaliste, s'il vous plaît.
Oui, alors, j'ai un parcours un peu... C'est pas typique, mais en tout cas... un peu d'altiste d'abord, d'altiste on va dire moderne, formation aussi au CNSM, et puis j'ai bifurqué ce qu'on appelle la musique ancienne, donc une musique qu'on pratique, la musique du 16, 17 et 18e siècle, qu'on pratique plutôt sur ce qu'on appelle des instruments anciens, qui sont des instruments avec des cordes boyaux, avec des particularités techniques, de lutherie, qui sont très différentes de la facture moderne, et qui donnent des sons particuliers, et qui sont beaucoup plus agréables à jouer avec cette musique. En tout cas, c'est comme ça qu'à l'époque, les musiciens avaient leurs instruments. Et là, le spaliste, c'est juste que je joue d'un instrument qui s'appelle la viola da spala, qui est un instrument italien qui a été inventé à Venise autour de 1640-50 et qui se porte en bandoulière. C'est une sorte de petit violoncelle. Voilà, c'est un instrument qui a complètement disparu.
Je conseille aux gens d'aller regarder sur Internet parce que c'est assez drôle à voir.
Ouais. Ouais, c'est assez particulier. C'est un petit violoncelle, donc c'est vraiment la tessiture du violoncelle.
Qui se porte sur le cœur, c'est assez joli. La
ouais, vous en bandoulière autour du cou comme une guitare, quoi. Mais c'est une guitare à archet. Et ça produit un son entre celui du violoncelle et une sorte de basson un peu bouché, quoi. Et c'est et on peut faire tout le répertoire de violoncelle. Donc ça m'a ouvert pas mal de répertoires. Donc je pratique ces deux instruments totalement différents, mais aussi passionnants l'un que l'autre.
Je reviens à votre album, donc qui est sur l'histoire de la musique anglaise. Il est entrecoupé d'extraits de journaux, je sais pas, ou d'écrits en tout cas des musiciennes dont vous parlez, dont celui de Philistette qui, je trouve, résume très bien la situation. Elle écrit « Alors, à l'âge de 10 ouais, je vais pas arriver à lire. Alors, à l'âge de 10 ans, pratiquement analphabète, que faire ? Mes parents n'ont pas jugé nécessaire de me faire poursuivre mes études, même si, pour une raison étrange, j'ai été autorisé à assister à un cours donné par une maîtresse d'école à la retraite pour tracer des cartes, accrochez-vous, pour lesquelles nous utilisions du papier hygiénique. Ma mère et mon père pensaient que les filles n'étaient nécessaires qu'en tant que mères potentielles. Alors, et là c'est là où c'est terrible, alors pourquoi gaspiller de l'argent pour ce qui n'est pas essentiel ? Est-ce que vous, quand vous écoutez sa musique, vous l'entendez, cette femme, dire ça ? Ou est-ce que... ou pas ?
Non, je pense que justement, en fait, en fait, l'idée de l'émancipation, évidemment, elle traverse le XXe siècle pour les femmes. Là, en l'occurrence, moi, je trouve qu'elle s'affranchit totalement de ces phrases-là que...
Elle veut être complètement un compositeur, une compositrice, pardon.
Ouais, complètement.
Elle veut être considérée comme une compositrice à part entière.
Exactement, et ce qu'elle a été, de toute façon, de son vivant, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Les enfants existent toujours et essayent de faire vivre son catalogue qui n'est pas beaucoup édité, comme beaucoup en fait de compositrices encore aujourd'hui, et je trouve ça bien dommage qu'on n'ait pas l'occasion de pouvoir trouver leur partition, parce que c'est ça aussi qui manque, réellement.
Mais pourquoi ils sont pas édités ? Parce qu'on les a peu considérés à l'époque ?
Déjà, d'une part, on les a peu considérés à l'époque, et on pense toujours que c'est quand même de la sous-musique, en tout cas de la musique qui est moins intéressante ou moins aboutie que les hommes. Voilà, je pense que, et d'ailleurs en France, la musique française, c'est toujours pareil, donc il y a une sorte de sexisme de base et de postulat de départ qui veut que, de toute façon, une femme compose forcément moins bien qu'un homme.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui.
Mais quand vous dites ça, c'est parce que vous l'avez entendu, parce que
oui, bien sûr.
Les choses que vous avez entendues,
oui, oui, bien sûr.
Je tombe, ça n'a pas l'air, mais je tombe un peu de ma chaise.
Non, mais c'est une vérité, et que d'ailleurs, en fait, même beaucoup de musiciens disent, donc, encore, je veux dire, d'interprètes, quoi, se disent, bah, de toute façon, Schumann sera toujours mieux que sa sœur, ou que Wagner sera toujours mieux que Ethel Smith pour parler de gens qui ont composé aussi des symphonies des opéras.
Est-ce que vous vous sentez auteur de ce disque? Même si vous n'avez pas composé les morceaux, parce que quand on l'écoute, on voit qu'il est très construit. Et est-ce que vous êtes senti l'auteur à un moment? Peut-être vous voulez pas.
Auteur, oui, alors c'est un peu. C'est peu, beaucoup dire, trop... parce que le but, c'est quand même de servir ces musiques-là, enfin ces musiciennes, ces artistes. Mais oui, il y a une vraie idée d'une construction presque dramaturgique aussi, peut-être basée avec des chapitres. Parce que aussi l'Angleterre, il appelle un tout petit peu à soit des espaces, c'est-à-dire, par exemple des musiques d'église ou qu'on pourrait écouter à la maison, qu'on pourrait écouter dans des pubs, parce qu'en fait c'est des musiques, beaucoup de musiques d'ambiance, des musiques de salon, des voilà. Et donc en fait j'ai essayé dans ce disque d'associer à chaque fois un lieu aussi à une saison, parce que la musique anglaise est extrêmement est traversée par les évocations de la nature, de ce que ça veut dire. L'hiver, la neige, tout à coup les feuilles qui tombent, voilà, qui sont très elles-mêmes, enfin toute cette nature très liée à l'expression des affects de l'âme humaine, quoi.
Et sauf erreur de ma part, il n'y a que de la musique de chambre.
Ouais.
C'est parce que vous étiez limité, vous ne pouviez pas avoir un orchestre, ou parce que c'est plutôt une musique entre guillemets, je vais rien dire parce que si j'ai un mot entre guillemets, ça va vexer, entre guillemets modeste, même si moi j'aime beaucoup les musiques de chambre, mais. Les femmes, elles ont plutôt écrit la musique de ce type de musique-là, ou il y a aussi des grandes symphonies qu'on peut trouver signées par des femmes?
Alors, effectivement...
Quand je dis grandes, il n'y a aucun jugement de valeur, je tiens à le préciser tout de suite, parce qu'en plus, on est entre hommes et on parle de femmes.
Oui, non, effectivement, c'est une réalité qu'elle composait principalement... Enfin, ce que je dis, Virginia Woolf, dans La Lieu à Soi, c'est justement, en fait, c'est ça, c'est d'arriver pour les femmes à trouver un endroit, c'est-à-dire un lieu à elles, qui n'est pas le bout de coin de cuisine qu'avaient les sœurs Brontë au XIXe siècle, où... Ce temps entre les enfants et la vaisselle, quoi. C'est à peu près ça. Alors on peut se dire que ça n'a pas beaucoup évolué d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin, pour remettre un peu de grain à moudre. Non, et effectivement, de fait, elles ont composé un peu moins de symphonies ou de grandes choses. Voilà. Après, la musique anglaise, comme j'expliquais, elle est toujours liée quand même à des petits espaces. Hein. Mais Ethel Smith, par exemple, dont on met en valeur la musique sur ce disque, en fait, elle a aussi composé beaucoup, beaucoup de symphonies, beaucoup de choses beaucoup plus de grande dimension qui ont été données un peu partout, notamment aussi aux États-Unis.
Ce sont des musiciennes que vous connaissiez déjà, que vous aimiez déjà, que vous avez mis dans le disque, ou il y a vraiment des découvertes?
Oui, il y a vraiment des découvertes. Il y a vraiment des découvertes parce qu'il y a aussi des œuvres qui n'ont jamais été enregistrées, qui n'ont jamais été éditées.
En France ou dans le monde?
En France et dans le monde. Donc,
alors comment on découvre une musicienne?
Déjà maintenant, c'est vrai que il y a de plus en plus aussi un réseau et puis un annuaire qui se construit grâce à une association qui s'appelle Présence Compositrice, qui est dirigée d'ailleurs par une claveciniste qui a mis tout le répertoire de musique compositrice, et donc avec ça peut aider à trouver, mais c'est aussi au hasard des recherches sur internet, on se dit ah mais tiens, mais il y a cette musique qu'on connaît pas, et puis en fait on découvre que et là en l'occurrence il y a certains Philistés notamment, c'est par ses enfants qu'on a eu accès aux manuscrits, parce qu'il n'y a pas d'édition. Et y a pas
mais comment vous les trouvez, ces enfants? C'est ça qui me fascine.
On finit par trouver, c'est pareil, c'est les réseaux. Les réseaux, ils servent à ça, quoi.
C'est genre, ils avaient sur
non, il y avait
un
Twitter,
réseau.
Il y avait Twitter, il y a Philly State Music, je sais pas. D'accord. Quoi, et on se retrouve à écrire un message privé, puis on a une réponse, et puis de là un mail, et puis de mail un téléphone, et puis.
Et c'est beaucoup de temps. Ça vous a pris beaucoup de temps à trouver
C'est beaucoup de temps. Ouais.
C'est quoi, 2 ans, 3 ans?
À peu près 2 ans de préparation, ouais. D'un disque comme ça, c'est 2 ans pour joindre, éditer, et puis après, enregistrer, sortir, etc. Oui, 3 ans, ouais.
Comme l'animateur est toujours un peu pervers, maintenant je vais vous demander, est-ce qu'il y a dans le disque des musiciens que vous aimez un peu moins, mais que vous êtes senti, je ne vous demande pas lesquels, mais que vous êtes senti obligé de mettre par rapport à la cohérence du propos?
Vous avez compositeurs et compositrices?
Oui, oui.
Non, il n'y a rien du tout que j'éjecterais, mais absolument rien. Vraiment. On a envie même de rajouter plus, parce que déjà c'est un double disque, donc c'est beaucoup, mais on aurait pu faire un quadruple, honnêtement. Vraiment, il y a des beautés partout. Et là, on travaille plutôt en ce moment sur de la musique, les musiques allemandes, pareil, qui sont très peu enregistrées. C'est pareil, on se dit, mais comment ça n'a pas pu être enregistré avant? Surtout, c'est surtout ça qu'on se dit.
Vous parliez tout à l'heure justement de la frilosité du milieu, d'un point de vue esthétique. Vous trouvez aussi qu'on a tendance parfois trop à rejouer les mêmes morceaux, alors qu'il y a tant de choses encore à découvrir. Moi, j'ai toujours fasciné, j'ai découvert ça en sens cette émission au fur et à mesure, en invitant des musiciens classiques, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de morceaux à découvrir.
Mais une Atlantide vraiment de musique. On tourne les programmations. Alors, est-ce que c'est la frilosité? Effectivement, je ne sais plus de quoi on parlait.
On parlait de la couverture avec les nœuds papillons tout à l'heure.
Oui, voilà. Alors, il y avait ça, mais il y avait aussi un peu les femmes confinées. Bah, je trouve que depuis le confinement, depuis aussi le Covid, il y a des valeurs refuges. On se réfugie sur des...
Mozart.
Sur du Mozart, du Vivaldi, des sonates, des symphonies de Brahms ou des œuvres en tout cas connues de tous pour essayer de rassembler un maximum de public. Peut-être qu'il est temps, je pense que le risque, il vaut le coup de pouvoir programmer tout un tas de choses. Et d'ailleurs aussi peut-être des programmes, on parlait au début de l'émission de choses
avec Arnaud,
partagées, ou des passerelles entre plusieurs... ça serait intéressant, mais pour l'instant, c'est un appel. Programmateur, ayez des idées... audacieuse.
C'est-à-dire qu'on peut être audacieux et innovant, soit en créant comme Arnaud, soit en allant chercher dans le passé comme vous des choses qu'on ne connaît pas. Il y a finalement deux manières de faire.
Mmh. Ouais, tout à fait.
Dans l'introduction du livret, vous parlez du vague à l'âme si particulier de l'écriture anglaise. J'avais juste envie de savoir si c'était quelque chose que vous connaissiez souvent, le vague à l'âme.
peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu, ça c'est... Et puis, ça a été une difficulté, par exemple, dans le disque. La musique anglaise, il y a une sorte on est sous perfusion de dépression, quoi. Je veux dire, faut trouver le truc qui va justement être un peu excité, un peu joyeux, etc. Sans parler, je ne suis pas en dépression, je rassure les éditeurs.
On peut aimer avoir un peu de vague à l'âme.
Ouais, un peu de sentimentalisme.
C'est pas un état forcément désagréable, donc faut pas être dans la dépression juste un peu avant. Bon, alors on va écouter un extrait, parce que là aussi je vais vous demander ce que vous pouvez nous présenter. C'est la sonate pour violon et piano de Rebecca Clerc, c'est interprété par Adam Laloum et Hélène Dessin.
Alors c'est pour alto et piano.
Et j'ai fait une erreur, il en faut bien une par émission. Allez-y.
c'est une sonate, justement on parlait de sonates très très connues du répertoire pour alto, celle-ci c'en est une, c'en est un exemple, et c'est une sonate qui a un peu fait du bruit à l'époque, parce qu'elle avait gagné des prix, et pendant longtemps on a cru que c'était pas Rebecca Clerc qui avait écrit, elle l'avait écrit sous un pseudonyme d'homme pour gagner ses prix, évidemment, quand on a cru, comme quoi le patronyme
C'est un peu l'histoire de Colette, mais dans la musique classique.
Exactement,
quoi. On l'écoute. Thank you. C'était la sonate pour alto et piano de Rebecca Clark, jouée par Hélène Dessin et Adam Laloum, un extrait de l'album Un lieu à soi, que vous avez voulu et pensé, Samuel Angbert. Vous nous disiez, pendant qu'on écoutait cet extrait sur Radio Campus Paris, que mais là, c'est une autrice, enfin, c'est une compositrice du début du XXe, mais que par contre, si on remonte dans le temps, et que par exemple au XVIIe siècle, c'est très très difficile de trouver des compositrices.
Oui, en fait, ce disque, il parcourt 4 siècles de musique, c'est important de le dire, parce qu'on voulait mesurer aussi à quel point il y avait une évolution dans la représentation des femmes dans la littérature musicale, et qu'on n'en trouve qu'une au XVIIe. Au XXe, on voit qu'il y a Rebecca Clarke, Etta Smith, Cheryl Frances Ode, Phyllis Tate, etc. Enfin, toutes ces compositrices dont on a pris un petit échantillon, mais en tout cas.
Et si on cherche un peu en histoire, on sait parce que leur partitions ont disparu ou parce que c'était très rare.
Oui, déjà. Et puis, il fallait avoir l'éducation pour pouvoir composer. Et puis aussi avoir les connexions pour pouvoir éditer. Et donc, cette compositrice du XVIIe, Lady Mary Deering, déjà, elle était noble. Et puis, elle avait un père qui était éditeur. Donc, il a pu, lui, un peu influencer une édition d'un autre compositeur pour intégrer ses... Voilà, donc déjà...
C'est aujourd'hui, c'est compliqué d'enregistrer un album de musique classique ou de piano, de massage pour piano. Vous n'avez pas l'air.
Il faut le budget.
C'est ça. En fait, c'est plutôt financier. Financièrement, c'est compliqué parce que un disque, c'est très cher. D'une part, alors on peut réduire les coûts à droite à gauche, mais il reste que il faut un lieu, faut les artistes, faut la technique, etc. Et puis il faut le pressage, enfin tu vois toute la chaîne. Mais sinon non, quand on veut, on peut essayer, faut forcer un peu et puis on trouve toujours.
Quand vous avez créé un label, Samuel Angbart, vous imaginiez tout le travail que c'était ? Parce que la question que je me suis posée tout simplement, c'est que je me dis, un musicien, il a envie de jouer, et vous avez passé votre temps à chercher des partenaires, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes frustré ? Ou est-ce que malgré tout, c'est aussi passionnant d'arriver à sortir un double album ? Je redis cette expression qui me donne l'impression d'avoir 600 ans. Est-ce que malgré tout,
le plaisir est gigantesque. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai appris... énormément de choses, vraiment incroyablement de choses sur le parcours, c'est fou et je regarde pas une seule seconde et de pouvoir amener des musiques qu'on n'entend jamais, c'est surtout ça qui me drive, mais et puis surtout de faire profiter à des artistes auxquels je crois, non pas du tout, au contraire, c'est
ça vous plairait,
ouais.
Ça vous plairait faire ça, Arnaud Roulin ?
Je suis pas sûr. Non, je préfère...
Vous préférez rester musicien.
M'abandonner à l'instrument.
Pourquoi ?
Je sais pas, c'est...
Vous êtes comme moi, vous êtes trop bas, vous avez trop de bazar.
Je suis un rêveur.
Alors, je redis qu'on pourra...
Je manque un peu de pragmatisme.
vous préférez faire des massages pour piano.
Voilà.
On pourra vous écouter donc le 13 décembre à la FAB, qui est dans le 13e arrondissement. J'ai perdu l'adresse, mais si je me dépêche, je devrais
c'est
la retrouver.
C'est une galerie Agnès B.
C'est la galerie Agnès B, oui. C'est, voilà, c'est la FAB, c'est dans le 13e, c'est au métro Bibliothèque François Mitterrand. Et vous, donc Samuel Engelbart, on vous pourra vous écouter le 8 mars à la maison Georges Sand, dans le Berry, si j'ai bien compris. Et le
21-23 juin, au festival des moments musicaux de Gerberoy, que je dirige d'ailleurs aussi. Pour ce programme. Et puis on a d'autres dates, mais sur d'autres programmes. Et suivez-nous.
Eh bien, merci beaucoup. Puis on mettra toutes les informations et les bonnes sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Merci à vous,
beaucoup.
Arnaud Roulin et Samuel Engelbart. C'était La Relève préparée et présentée, je ne sais pas si on peut appeler ça présentée, par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. On se retrouve très bientôt. Vous pourrez trouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris à 19h. C'est l'heure de la matinale. Bonne soirée.